Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 18h.
Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Et merci d'être avec nous sur Radio Campus aujourd'hui. Nous sommes deux pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Dominique.
Bonjour à tous.
Et voilà, en l'absence de Rénal, on fera un petit épisode spécial consacré au Japon. Encore une fois, c'est le troisième épisode. Et c'est vrai qu'on avait reçu dernièrement des invités d'exception. Avec Quentin Deuil qui tenait le petit combiné à Roubaix et Simon Delbar qui est maître Chanoyu dans la cérémonie du thé. Et on a fait un épisode spécial musique la semaine dernière. Et cette fois-ci, on fera un peu de news sur le Japon.
Oui, parce qu'à force de chercher des invités, on a trouvé plein d'actu insolite ou pas sur le Japon, on s'est dit, oui, ben à un moment, il va falloir en parler quand même. Donc voilà, allez hop, on a une émission un peu calme, au frais.
Et c'est vrai qu'il se passe encore beaucoup de choses au Japon. Bah, et c'est quand même un univers qui est très lié à cet univers geek qu'on affectionne tout particulièrement. Alors, je propose tout de suite d'attaquer par l'agenda, même si ce n'est pas un agenda habituel.
Pour dire vite, oui.
C'est plutôt quelques petites remarques qu'on a fait de droite à gauche, notamment un jardin qui a été visité par l'un des membres de notre
Absolument,
équipe.
Absolument, parce que justement, lors de l'émission où on recevait ses invités, j'avais mis le post Facebook et j'avais mis une magnifique photo d'un parc japonais. On se serait cru au cœur du Japon, etc. Mais en fait, c'est une photo qui avait été prise quelques heures avant par Pierre-Yves, l'un des membres de l'équipe, dans un parc. En France, le parc de Maulévrier, c'est dans les Deux-Sèvres, enfin dans les Pays de Loire, et c'est le plus grand parc oriental d'Europe. Et il avait été enchanté de son séjour, on le salue au passage, Pierre-Yves, parce que je suis sûr qu'il nous écoute. Et donc c'est un parc qui est visitable jusqu'au, alors je regarde si j'ai pas de bêtises, jusqu'au mois du 15 mars à mi-novembre. Chaque année, donc, le parc de Maulévrier, ça s'écrit M-A-U-L-E-V-R-I-E-R, voilà, j'ai réussi à le dire. Et ça a l'air très sympa, donc la prochaine fois qu'on passera dans le... Non, pas besoin d'aller au Japon pour voir des parcs japonais.
Et c'est également le salon international du bonsaï de 2020.
Le salon total.
Voilà,
c'est ça. On ne peut pas aller au Japon en ce moment, enfin, c'est un peu difficile.
C'est très compliqué.
En faisant quelques... Allez, centaines de kilomètres quand même, on peut se retrouver complètement dépaysé.
Donc voilà, si vous allez du 12 au 13 septembre à Maulévrier dans la salle des fêtes, vous pourrez enfin voir des gens qui savent entretenir ce petit arbre qu'est le bonsaï.
C'est très pratique de faire un salon du bonsaï parce que ça prend beaucoup moins de place qu'un vrai parc ornithologique.
C'est vrai.
Tu peux faire un parc zoologique à base de bonsaï dans ton jardin, si tu veux, c'est pas mal.
Alors, pour ma part, j'ai de nombreux souhaits essayer d'entretenir un bonsaï, ce qui est une technique apparemment assez compliquée, puisque ça peut mourir très vite si tu t'en occupes pas très bien.
C'est un art, je crois. Et tu imagines, on voit régulièrement des labyrinthes faits dans des arbres, enfin avec des arbres, etc. Mais c'est vrai que un labyrinthe en bonsaï, c'est pour les animaux. C'est un mini labyrinthe.
Ce qu'on a pu voir sur Mission Japon, c'est l'art du sushi. Ça, c'est un bouquin qui est sorti assez récemment, qui vous explique comment justement couper des sushis. Et c'est fait par Frankie Alarcon.
Alarcon, je ne sais pas comment on dit. Et en fait, c'est un Français qui a voyagé au Japon, un petit peu comme nos derniers invités, qui a voyagé au Japon, qui est tombé amoureux, puis qui a décidé de faire partager sa passion. Et en fait, il a rassemblé tout ça dans donc, l'art du sushi. C'est un album de bande dessinée. Et il raconte l'histoire du sushi, la façon dont c'est pareil, dont le sushi a envahi le monde, pratiquement on peut le dire, sous forme de bande dessinée. Et c'est aux éditions Delcourt.
Alors, à envahir le monde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes maintenant de restaurants qui sont lancés dans l'aventure.
Je crois que de toutes les nourritures que tu peux commander ou prendre à emporter, etc., je crois que ça a même dépassé la pizza. La fameuse pizza que tu regardes avec tes potes le soir de foot, etc., je crois que la pizza a été dépassée par le sushi depuis quelques années.
C'est vrai que ça peut être plus agréable et ça sonne comme plus équilibré. Mais il reste quand même des vrais restaurants japonais dans le coin que je vous invite à découvrir, qui sont différents de certaines chaînes. Et tu vois, je ne cite personne.
C'est bien, c'est bien. C'est vrai que le sushi a quelque chose de plus pratique parce que c'est en petite portion. C'est, on va dire, healthy, on dirait un mot bien français, bon pour la santé, par rapport à une pizza ou des sandwichs grecs, etc. Enfin, c'est quelque chose de plus sain, apparemment. Je pense, hein, oui.
Sur le papier.
Je pense pas qu'il n'y a pas concours à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je pense que ça fonctionne beaucoup.
Effectivement. Enfin, pour ma part, hein, tu peux me vendre quand tu veux des sushis sashimi, ça passera toujours. Alors, ce que vous pourrez remarquer dans certaines chaînes, c'est que comment détecter un bon sushi d'un mauvais, je pense que c'est à la quantité de riz. Parce que généralement, quand tu vas dans les supermarchés, on a deux fois plus de riz et une tranche de saumon qui est extra fine. Exactement. Et lorsque vous allez dans un vrai restaurant japonais, dans ce cas-là, vous dégustez vraiment. C'est le saumon qui est mis à l'honneur.
Normalement, un sushi, c'est fait pour... ça doit correspondre à une portion. Tu dois le manger en une seule fois. Et pas avec des baguettes, hein, comme on dit. Sinon, ça se mange avec les mains. Et normalement, tu dois le manger en une fois. Quoi.
À tel point qu'au Japon, il y a des restaurants qui font des sushis, mais juste sur un seul grain de riz.
Ça, il faut vraiment être radin, je crois. Alors, à moins que ça soit un riz très rare, genre cultivé en haut du Fujiyama, etc. Tu vois, le grain de riz coûte tellement cher qu'il vaut aussi cher qu'une portion de riz entière. Mais pour faire un sushi sur un... Mais il doit le préparer. Il a un microscope, il faut...
Je ne sais pas. Il était chirurgien avant et maintenant, il est expert de sushis.
Tu mets un grain de riz et tu mets un grain de caviar, tu sais. Un œuf de poisson, simplement. C'est le sushi vraiment super luxe. Hein.
Je pense que c'est encore trop gros pour
le... Il coûte encore plus cher qu'une portion de sushi entière. Mais pourquoi pas? Alors, je pense qu'il va m'en falloir quelques-uns après l'émission.
C'est ça. Alors, pour découvrir la culture japonaise, pour découvrir un peu le Japon, avez la possibilité...
Sans voyager. Ouais.
Voilà, c'est ça. Vous avez la possibilité de regarder des centaines de vidéos. Alors, nous, on en a détecté plusieurs, cette fois-ci, sur une chaîne française, qui est la numéro 5, si je ne me trompe, Arte.
Oui, c'est la 7, mais ce n'est pas grave.
C'est la 7 ? Ok, c'est pas grave.
Oui, c'est vrai que Arte est très prolifique au niveau des reportages. Il y a toujours des reportages magnifiques sur tous les sujets sur Arte. Et depuis quelques années, puis ils sont toujours, l'avantage, c'est qu'ils sont toujours visionnables sur le site Arte TV. C'est une série documentaire qui s'appelle « Le Japon vu du ciel ». Et quand je tombe là-dessus, bah, j'avoue que c'est des reportages en général d'une heure. Et ça couvre tous les sujets. Ça peut être vraiment ils font le lien entre la tradition et l'époque actuelle, ou la façon dont, dans l'époque actuelle, les traditions sont maintenues. Donc ça touche tous les domaines, hein, la religion, vraiment les cultures ancestrales, l'aspect culinaire et compagnie. Et donc il suffit d'aller sur le site rtt.tv ou vous tapez Japon et vous allez tomber sur toute la série de documentaires qui s'appelle Le Japon vu du ciel. C'est pas juste façon, je sais plus comment c'est, photographe célèbre qui prend des photos du ciel de la terre entière. Là, c'est vraiment Le Japon vu du ciel, entre tradition et modernité. C'est le sous-titre de l'émission et ça colle parfaitement au titre.
À découvrir, et il y a plein d'autres chaînes comme ça spécialisées un peu sur le Japon qui vous proposent et vous font découvrir un peu ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, parce qu'on connaît principalement ce qui sort dans les grands médias, mais une fois arrivé dans les petites villes, ces petits restaurants atypiques, ces conventions ou ces festivals. En parlant de festivals, il y a quand même des festivals qui vont proposer des animations, et cette fois-ci en ligne, puisque c'est la mode en ce moment. Et on a vu ça avec le Japan Yacht. Japan Yacht.
Japan Yacht, oui, ça se passe dans la ville de Niort, donc c'est Japan Yacht. Si c'était à Lille, ça serait appelé Japan Lille, peut-être, je ne sais pas. Ou si c'était dans le Nord, Japan Nord.
Est-ce qu'on a des nouvelles des Geek Days?
Pas pour l'instant, mais c'est pas grave, je ne m'inquiète pas.
Les fournisseurs ne sont pas inquiets. Non, alors, Japan Yacht, ça se passe quand? Ça se passe du 26 au 27 septembre 2020.
Donc, c'est un festival qui a lieu, je ne sais pas depuis combien de temps, mais qui normalement devait avoir lieu dans le parc des expositions à Niort. Mais cette année, pas d'exposition, pas de parc d'exposition, pas de déplacement, on ne peut pas s'y rendre, etc. Du coup, ils font un petit peu comme le festival Shiba Matsuri dont on avait parlé il y a quelques semaines. C'est un festival qui sera uniquement en ligne. Donc il suffit d'aller, le plus simple c'est d'aller sur leur Facebook, donc Japan Yacht, ça s'écrit J-A-P-A-N-I-O-R-T, donc sur Facebook c'est très facile à trouver. Mais ils ont un site internet, et si je ne dis pas de bêtises, c'est japanyacht.org. Vous avez tout le programme, donc fin septembre, on a le temps, hein, même si ça va venir vite. Et donc, il y aura plein de choses sur les arts japonais et les cultures imaginaires. C'est en ligne, c'est gratuit, gros avantage. Il n'y a même pas besoin de se déplacer. Et donc, il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Il y a plein de choses sur l'animation, etc. Enfin, c'est vraiment le but, c'est vraiment un petit peu comme on l'a fait, essayer de le faire dans ces émissions actuellement, c'est faire découvrir la culture japonaise, la partager, ou tout simplement.
C'est ça. Et il y a de nombreuses choses à découvrir. Et c'est vrai que ça nous manque un peu, toutes ces Japan Expo où on pouvait découvrir de nombreux stands qui nous permettaient comme ça de voyager. Japon.
Il y a du cosplay, mais je ne sais pas comment ils vont faire.
Alors, j'ai vu qu'il y avait des conventions de cosplay qui se tenaient toujours. Masquées cette fois-ci.
Tu te costumes chez toi et tu te prends devant ta webcam, en fait.
Ah non, non, tu peux maintenant te réunir dans des conditions strictes. Et donc, ils font un peu des défilés de cosplay à 1,5 m de distance avec un masque. Tout a l'air de bien se passer.
C'est ça. Mais si tu es en cosplay d'un personnage qui ne porte pas de masque.
Bah, t'en portes un quand même.
D'accord.
Il valait mieux choisir avant.
Absolument. Donc, Japan Europe, de toute façon, c'est fin septembre. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de choses sur le programme, mais on en reparlera sans doute au fur et à mesure des émissions suivantes.
Alors, juste avant d'écouter de la musique, je te propose de parler de... On a plusieurs news. Alors, cette fois-ci, insolites sur le Japon. Et on va parler d'art. On va parler de dessin. On va parler de... Alors, non, pas de peinture.
Ah, je ne sais pas.
Ça dépend. Est-ce qu'une fois imprimé, c'est de la peinture? C'est un artiste qui s'appelle Tatsuo Oliuchi, qui est un peu un artiste contemporain d'un logiciel.
Il utilise des outils modernes pour faire de l'art. Effectivement, donc c'est un Japonais qui s'est retrouvé à la retraite et puis, comme beaucoup de monde, qui s'ennuyait, il ne savait pas quoi faire. Il avait son ordinateur et comme beaucoup de gens qui sont à la retraite, il décide de se mettre soit à la peinture ou à la musique ou comme ils ont un peu de temps, de pratiquer un art. Et il s'est dit, bon, j'ai pas envie d'acheter des pinceaux, des matériels de dessin, etc. Est-ce que je peux pas faire du dessin avec ce que j'ai chez moi? Il avait son ordinateur et il avait pas envie d'utiliser un des nombreux logiciels de dessin qu'on peut trouver sur l'ordinateur, qu'il soit déjà installé ou pas. Et qu'est-ce que j'ai comme logiciel sur mon ordinateur? Ah ben, j'ai Microsoft Excel. Et il s'est dit, pourquoi pas dessiner avec ce logiciel? Et effectivement, il est parti. Et il a commencé à dessiner des paysages, enfin des choses typiquement, des estampes japonaises. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'estampes japonaises. Et en utilisant les fonctions du logiciel. Alors moi, au début, je me suis dit, Excel, c'est une grille. En fait, c'est une grille avec des cases, principalement. Je me suis dit, est-ce qu'il s'est amusé un petit peu comme un logiciel avec des pixels à colorier les cases?
C'est 62 000 cases.
À colorier toutes les cases. Et ensuite, en dézoomant, tu obtiens un dessin. Parce qu'il y en a qui font ça, ils sont un peu fous. Non, non, lui, il utilise les fonctions un peu avancées du logiciel Excel qui permettent de faire des graphismes, des courbes, des dessins, de rajouter des cercles, etc. Et en utilisant donc tous ces outils qui sont mis à disposition dans le logiciel, il arrive à faire des dessins, des paysages qui sont, ma foi, alors à la radio, on ne peut pas trop vous les montrer, mais je mettrai le lien de toute façon sur les réseaux sociaux et sur le site internet, mais c'est assez impressionnant. Bon, donc on n'a pas besoin d'acheter de matériel. Quand on est au bureau, qu'on s'ennuie, ça arrive, on peut très bien, au lieu de jouer au solitaire ou des mineurs, faire des dessins et devenir créatif grâce à ce fameux logiciel.
Alors, il faut avouer, c'est un peu faire compliqué qu'on peut faire simple dans cette situation, puisqu'il va vraiment créer un dessin en créant une zone d'image, ensuite créant au crayon, remplissant avec un fond de couleur.
Il définit une montagne et il utilise la fonction de duplication pour la retourner, pour faire long, le reflet dans l'eau, etc. On voit qu'au fur et à mesure, ça fait plusieurs années qu'il fait ça, il a même fait des expositions, il arrive même à vendre, à imprimer et à vendre ses tableaux, comme quoi ça marche. C'est assez on voit l'évolution de son art, oui, c'est ça, il a créé une espèce de nouvelle technique de dessin, je ne sais pas. On voit l'évolution de son travail, sa technique au fur et à mesure des années.
C'est ça, alors si vous voulez regarder en direct, l'artiste s'appelle Tatsuo Oliuchi.
Ça s'écrit, attention, H-O-R-I-U-C-H-I, tout simplement.
Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il s'est donné une dizaine d'années pour pouvoir présenter son travail au public et éventuellement le vendre, ce qu'il fait actuellement, voilà, hein, puisqu'il marche. A un petit reportage sur lui, donc on peut dire que le pari est rempli. Mais voilà, c'est assez atypique.
C'est ça, quand quelqu'un a du talent, ben, quels que soient les outils qui sont à disposition, le talent finira par émerger.
Alors, je vous propose de passer un peu de musique. Alors, on a pris... La semaine dernière, c'était les musiques qui font référence au Japon, donc des musiques...
Mais pas des musiques japonaises,
c'est effectivement, ça. Et cette fois-ci, on part...
Ouais, je vois que tu t'es lâché, hein. T'as même pas fait du Coldplay, hein. C'est pas bien.
J'ai profité que tu n'étais pas là. Et cette fois-ci, ça sera que des chansons, cette fois-ci japonaises, et j'ai choisi des artistes qui font le café, hein, comme on peut dire, qui font le thé, pour, en l'occurrence ici, pour le Japon. Je vous propose tout de suite de commencer par The Black Mage. Or, les Black Mage, c'est quoi? C'est tout simplement Nobuo Uematsu.
Oui, ben je m'en doute. Le compositeur, le célèbre compositeur d'une bonne partie des musiques des Final Fantasy.
Voilà, de la franchise.
Et Black Mage, quand tu me dis Black Mage, voilà, je pense tout de suite au premier opus de la série où tu avais, parmi les classes de personnages disponibles, les mages noirs.
Et c'est ça. Et c'est bien le premier Final Fantasy avec une musique remixée en live, en version rock. C'était The Black Mage avec Mathias Cave, issu du Final Fantasy 1, un remix rock frais fait par Nobuo Uematsu.
Ça donne envie de rejouer au premier opus de Final Fantasy.
Alors tu avais joué au tout premier?
Oui, j'avais goûté un petit peu, etc. Mais
bon, je sais que toi ta préférence reste sur le 6. Voilà, ici le 5 pour ma part.
Pour les mages rouges plutôt que les mages noirs, mais bon.
Les mages rouges, ça servait pas à grand-chose, hein, mine de rien.
C'était le challenge.
Alors, on va rester rapidement dans l'univers du jeu vidéo avant de partir cette fois-ci dans l'animé. Et tout simplement pour citer un parc d'attractions qui est actuellement en construction et qui risque de plaire à beaucoup de personnes.
On pourrait pas y aller en ce moment, oui.
C'est difficile, surtout que c'est au Japon. Mm-hmm. C'est le Super Nintendo World. Rien que ça.
Je suis étonné qu'il n'y en ait pas eu. Oh, il y a peut-être eu des petites expositions des parcs avant, mais là, c'est vraiment. C'est comme Disney World, sauf que c'est au lieu d'être Disney, c'est tout l'univers des Super Nintendo autour de Mario principalement.
C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui essaient d'espionner un peu la construction du parc d'attractions et qui arrivent à découvrir notamment ces mondes un peu en style de Lego, hein, comme dans le premier Super Mario. On a découvert également quelques attractions du Donkey Kong World, puisqu'il y aura bien sûr Donkey Kong, il y aura Mario, il y aura Yoshi, tout le monde aura droit à son petit univers. Dire
à la fin, les jeux Super Nintendo, en général, ça devient un mélange de tous les jeux, tu retrouves des personnages de tous les autres jeux dans chaque jeu, ça devient compliqué. Moi qui n'ai jamais forcément suivi l'activité des Nintendo. Est-ce que les spectateurs vont être, dès le début, plongés dans un monde de jeux vidéo? C'est-à-dire ils seront eux-mêmes personnages d'un jeu vidéo et ils seront obligés de pas. Ça ne sera pas des allées classiques comme dans un parc d'attractions. Moi, je veux que ça soit un jeu vidéo, que tu te fasses attaquer par des monstres, par des gorilles qui te lancent des tonneaux comme dans Donkey Kong et que tu sois obligé de bouger pour sortir de là. Quoi.
Et revenir au début du niveau et repayer l'entrée du parc.
Oui, peut-être même trouver des trésors, etc. Que, comme dans les Mario, tu sois obligé de sauter pour attraper, qu'on te donne des champignons à manger pour que tu te transformes. Pas. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire un parc d'attraction si tu n'es pas dans un monde inclus, enfin vraiment dans un monde de jeux vidéo. Quoi.
Et honnêtement, ça donne envie, même si les conditions actuelles ne sont pas favorables, mais ça reste un parc d'attraction qui peut valoir le coup.
Si un jour il y a un jeu, un parc d'attraction sur les flippers, je veux que tu sois, d'entrée posé dans un siège et qu'on te pousse. Comme tu serais dans un siège en forme de boule de flux et tu serais promené d'attraction en attraction sans rien contrôler en fait.
Pourquoi pas, écoute. Mais ça me manque aussi le flipper dernièrement, hein. C'est une autre activité qu'on peut pas faire et les fêtes du flip se retrouvent également décalées, à notre grand regret. Alors,
donc, il devait ouvrir au printemps 2020 à Osaka apparemment, au Japon, donc à savoir quand ça sera, ça devrait ouvrir bientôt, il n'y a pas encore de date pour l'instant.
Pour l'instant ils ont fini un monde, je pense qu'on en est pour... Fin 2020.
Donc ils vont faire comme dans les jeux vidéo, ils vont sortir une première partie puis ils vont rajouter des extensions, c'est ça, petit à petit.
Est-ce que tu peux rentrer dans le parc en bêta?
Ah, pas bête.
Si tu es déçu, tant pis pour ta gueule.
Ouais, c'est ça. Il y aura des bugs, il y aura peut-être des bugs qui seront corrigés plus tard, on ne sait pas. Des trous dans le sol dans lequel tu vas tomber. Ah bah non, c'était un bug, désolé. Mais...
Est-ce que vous pouvez report quand même faire un petit mail pour nous indiquer où est-ce que vous êtes tombé et où est-ce que vous êtes cassé la cheville, pourquoi pas. Alors, on enchaîne cette fois-ci dans l'univers de l'animé qui reste quand même le fonds de commerce du Japon et surtout au niveau international. Ce qu'on a pu voir, et on va parler d'un des plus gros éditeurs de films d'animation japonaise, qui reste le studio Ghibli. Alors, le studio Ghibli avait construit, alors cette fois-ci non pas un parc d'attractions, mais un musée, le fameux musée Ghibli.
Tu l'as fait où, je crois? Non, je ne l'ai pas visité. Mais bon, pour tous les fans, tous les gens qui sont tombés amoureux du Japon, une bonne partie, c'est à cause des... Parce qu'on leur a mis des films Ghibli quand ils étaient petits devant les yeux. Donc effectivement, je pense que c'est une attraction, un passage incontournable d'une visite au Japon pour les fans d'animation. Oui.
Et maintenant, il est quand même possible de visiter ce studio, mais cette fois-ci directement en ligne. Donc, si vous voulez redécouvrir... l'univers de Ghibli avec ses nombreux films, C'est peut-être le moment. Vous n'avez pas besoin de voyager. Vous pouvez vous voyager. Alors, ce n'est pas de la VR, mais c'est un peu du Google Maps.
Ouais.
Où vous allez vous déplacer pour pouvoir voir les attractions et voir ce qui est écrit à côté.
Et apparemment, eux aussi travailleraient sur un parc d'attractions pour 2022. Ouais, bon, c'est ce genre de projet. On va attendre que ça se finalise avant de valider. Quoi.
Il y en a eu plusieurs. Hein. Je suis sûr qu'il y a des petits parcs d'attractions, Hello Kitty, etc. Alors... Pourquoi pas Ghibli ? Mais je pense qu'une Super Nintendo risque d'attirer plus de gens qu'un studio Ghibli, puisque c'est quand même plus ouvert, je pense, au niveau de sa communauté.
Je pense que c'est plus adapté à un parc d'attraction, le monde du jeu vidéo, parce que le monde de Ghibli est très divers et je pense que ça reste un peu plus contemplatif. Tu n'as pas forcément envie d'être dans des manèges en train de bouger, etc., dans un univers Ghibli. C'est quelque chose qui est un petit peu qui s'apprécie, je pense, de manière un petit peu plus calme.
C'est ça. Et par contre, quand tu peux quand même aller visiter les studios Ghibli ou en tout cas le musée, il y a une version en ligne, il y a une version que tu peux visiter. Il y a même là forcément le port du masque est obligatoire, à tel point qu'ils ont repris certains personnages du dessin animé en leur faisant porter un masque pour inviter les gens justement à respecter ces conditions. Alors on parle de Ghibli, il y a aussi quelques petits nouveaux objets qui sortent de l'habituel, avec par exemple des skateboards qui sont inspirés cette fois-ci des films japonais, avec des skateboards sur lesquels la planche sera peinte avec des dessins des studios Ghibli.
On croise régulièrement effectivement des skateurs quand on croise dans la rue qui personnalisent soit eux-mêmes leurs planches, soit qui achètent des planches décorées avec des ça fait partie du hobby du roller skate, du skate pardon, du skateboard, mais là, sauf que c'est des officiels, parce qu'il y a plein de gens, j'imagine, qui imprimaient leur propre version de planche. Là, ils se sont dit, oh, attendez, il y a du fric à se faire. Hop, on va sortir nos propres planches. Donc, elles sont à combien ? Elles sont à 112$. Je ne sais pas si c'est le...
C'est
le...
ça, 112$, et vous pouvez avoir...
Plus le voyage à Tokyo.
Planche de... Il faut aller à Tokyo, effectivement. Vous pouvez avoir une planche avec le voyage de Chihiro, mon voisin Totoro, le château
sinon,
dans le ciel.
Tu vas dans n'importe quel magasin qui vend des produits manga, etc. Tu achètes des autocollants Ghibli et compagnie, hop, tu les colles sur ta planche à roulettes.
Mais est-ce que c'est autorisé tout ça, Dominique ?
Mais oui, de toute façon, c'est en dessous, donc tu ne le verras pas.
Et pour finir avec le studio Ghibli, cette fois-ci c'est le nouveau film qui va sortir très, très prochainement. Et comment dire, Hayao Miyazaki a décidé de passer la main.
Ah oui, c'est pas ce qu'il avait dit il y a 30 ans ?
C'est ça.
Mais... Tous les 10 ans, il dit allez, je fais encore un film et j'arrête.
Et
puis il en fait encore 3. Il dit, allez, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier. Et puis, il fait encore 3 films. Bon, là, c'est bon, on est sûr qu'il prend sa retraite. Là.
En tout cas, il ne fera pas le prochain. Donc, il est plus ou moins en train de prendre des vacances. Et il laisse la main à Gorō Miyazaki, son fils, pour réaliser le prochain film. Sauf que son fils s'est dit, bah, tiens, maintenant que j'ai les rênes un peu du traîneau de Ghibli...
Tout le monde s'attend à ce que ça soit dans la pure lignée de ce que faisait son père. Et voilà, on attend de voir la comparaison.
Et c'est exactement ce qu'il ne va pas faire.
C'est bien.
Puisque la première décision qu'il prend, c'est de sortir le film complètement en CG.
En image de synthèse.
C'est ça.
En gros, parce que jusqu'ici, c'est vrai que l'un des points forts du studio Ghibli, c'est que tout était fait à la main. Je ne sais pas trop, je ne suis pas derrière les animateurs pour voir, mais tout était fait presque au pinceau, de façon artisanale, contrairement à ce qu'il fait chez Pixar ou Disney. Et là, donc, là il a lâché, hop, il a acheté, il a décidé de passer en image de synthèse. Alors, j'avoue que j'ai vu quelques images, des images fixes. Je n'ai pas vu d'image animée des previews du prochain film. Ça me fait un peu peur.
Ah bon ?
Ça me fait un peu peur parce que ça me rappelle terriblement des personnages qu'on peut voir évidemment dans les films. Ce que je n'aime pas moi personnellement dans les films de Disney et de Pixar. C'est-à-dire des personnages avec des grands yeux qui bougent dans tous les sens, etc. J'ai l'impression de voir une version américaine de Ghibli.
Mais peut-être parce que la 3D est tellement été utilisé par Disney et Pixar que que c'est peut-être pour ça que Ghibli a gardé ce style de dessin 2D pour garder son identité et plaire aux téléspectateurs.
Tu sais quoi, je pense que Hayao Miyazaki, il dit, bon, comme ça fait au moins 4-5 fois qu'il nous fait le coup de la pré-retraite et qu'il n'arrête pas, il dit, allez, je passe la main à mon... Il savait que son fils allait faire un truc pas terrible, qui n'allait pas lui plaire. Du coup, il va être, oh, ça, je suis obligé de revenir pour remonter. Et du coup, ça va lui donner une excuse pour ressortir de sa retraite pour refaire des films.
Ah,
tu crois que c'est pas ça?
Ah, peut-être, peut-être. Alors, le nouveau film qui va sortir s'appelle Erwing and the Witch, ce qui est tiré d'un roman. Hein. Donc déjà, le fils vient avec quelque chose qui est déjà écrit et en plus dit « je vais tout changer, je n'appelle même pas les anciens de Ghibli pour m'aider dans mes travaux ». À voir. Donc je vous... Alors forcément, dû à cette période, en ce moment, le film a été décalé. Mmh. Donc il faudra voir dans quelques semaines, dans quelques mois.
Avant de voir la première bande-annonce, mais j'ai peur.
Le résultat, effectivement. On va faire une petite pause en musique. Forcément, si on parle de Miyazaki, on parle également de Joe Hisaishi. Je vous propose d'écouter une bande de son live, cette fois-ci, qui était... avec les 25 ans des studios Ghibli, c'est Joe Hisaishi avec Porco Rosso. Thank you. Joe Hisaishi lors des 25 ans des studios Ghibli avec ce fameux animé. T'aimes bien quand je dis fameux, alors j'en assiste, j'en abuse. Porco Rosso qui pourrait être l'un des seuls animés qu'on a envie de regarder en VF, puisque c'est le seul qui a la voix de Jean Reno. Non, même pas.
Même pas sûr.
Ok, ok. Alors, vite fait, des news.
C'est son meilleur rôle, hein, je ne sais pas.
Des news en vrac concernant les animés, puisqu'on est au Japon. Alors, pour les old school, il y a cet animé qui s'appelle Fruit Basket, qu'on a tous les deux apprécié.
Ils ont ressorti une deuxième série, là, récemment. C'est vrai. En ce moment, elle est toujours en cours. Seulement. Oui, c'est un manga que j'aime bien, moi. Alors qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est difficile de résumer l'histoire. Hein. C'est basé sur une ancienne légende du folklore japonais, comme quoi il y aurait 12 animaux du zodiaque japonais, qui étaient convoqués par leur dieu, par Dieu. Et le chat avait été un petit peu exclu. La souris lui avait joué un mauvais tour. Elle ne lui avait pas dit que le dieu avait organisé un repas. Donc le chat est arrivé en retard. Et, et il se trouve que dans Fruit Basket, on suit l'aventure de plusieurs personnages qui sont les incarnations de ces animaux du zodiaque, de ces signes du zodiaque. Et comment ils vont peut-être réussir à se libérer de la malédiction. Il y avait une première série qui était sorti il y a quelques années, et là ils ont ressorti une deuxième, mais qui ne couvrait pas tout le manga, c'est ce qui arrive malheureusement dans pas mal de séries. Il y a une série animée qui sort quand un manga a du succès, le problème c'est que le manga continue, et soit la série s'arrête, soit la série est obligée d'imaginer des choses, alors que le manga est encore en cours. Et là donc il y a une nouvelle série qui est sortie, qui repart du début, et qui cette fois couvre l'entièreté du manga.
Donc c'est un reboot
Petit peu, si on veut, avec des nouveaux graphismes, etc. On s'y habitue un peu, mais moi j'aime bien.
Alors c'est mieux, c'est regardable.
J'étais fan de la première, mais parce que j'ai découvert. Mais non, c'est vraiment très très bon.
Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Fruit Basket? Oui, c'est surtout qu'il y a un restaurant, il y a un café qui a ouvert à Tokyo et à Osaka, qui vous permet de vous replonger dans l'univers de Fruit Basket.
C'est pas une série qui parle de beaucoup, enfin de nourriture, mais c'est vrai que par moment. Ils adorent manger. Mais effectivement, il y a des allusions faites à la nourriture et des repas qui sont préparés et beaucoup de discussions qui se font sur la nature, donc pourquoi pas.
Également, dans l'animé, on a pu voir que One Piece, cette série qui a cartonné.
C'est une série qui a battu des records. Oui, seulement parce qu'elle est inscrite au Guinness Book des Records comme ayant vendu le plus grand nombre d'exemplaires de manga. Donc c'est vraiment peut-être la série qui a le plus de succès.
Est-ce que je pense qu'il y a une génération qui s'est intéressée un peu à tous ces mangas tels que Fruit Basket, Evangelion, etc. La génération Naruto, et juste après, il y a cette génération One Piece.
De toute façon, on peut deviner l'âge des gens pratiquement au manga qu'ils préfèrent, c'est ça.
Mais
Avant, il y avait eu Dragon Ball et compagnie, enfin, bien sûr, forcément. Mais...
Sauf que je pense que Pokémon avait laissé plus ou moins des vieux... aficionados de l'animé de côté, alors que One Piece les a un peu récupérés en disant mais si, il y a encore des nouveaux animés qui peuvent vous plaire. Alors, je dis ça, One Piece, ça date.
Ça 23 ans. Je pense que c'est une des séries les plus longues, effectivement. Au Japon, le tome actuel, le dernier tome, c'est le 97. Et en France, comme quoi la traduction, ça aussi, c'est que ce qui a noté, c'est que les adaptations en français des mangas sont assez rapides. Le dernier tome sorti en français, c'est le 96, si je dis pas de bêtises. En gros, il y a pratiquement un numéro d'écart, ce qui est très très peu en matière de traduction. Hein. Des fois, il fallait attendre qu'une série soit complètement finie au Japon pour qu'elle soit traduite en français, c'est rare. Donc là, on est vraiment en temps réel. Et il y a plus de, si on compte en chapitres, ça fait plus de 1000 chapitres. Et donc l'auteur, en 2019, donc l'année dernière, avait annoncé qu'il prévoyait la fin de la série, d'écrire la fin de série dans les 5 ans. Donc on est vraiment sur les dernières lignes droites là, quoi. Donc vous ne connaissez pas One Piece, il faut pratiquement reprendre depuis le début, mais je vous préviens, ça va vous prendre du temps. J'ai essayé plusieurs fois de m'attaquer à One Piece, moi, que ça soit en version dessin animé ou en version papier. C'est très sympa, etc., mais j'arrive pas à accrocher, mais pas à cause de la qualité de ce qui se passe dedans, des dessins ou des aventures ou des personnages, c'est très drôle, c'est très sympa à suivre, mais j'ai trop l'effet du « il faut à tout prix le voir, c'est la série qui marche, etc. » que ça me gâche un peu le plaisir.
Plus,
quoi.
Plus on te dit « il faut le voir », t'as moins envie
de le voir.
Moins
j'ai envie de le voir, presque, c'est ça. Hein. Ça me gâche un peu le plaisir, tu vois.
C'est
alors peut-être plus tard, peut-être que dans 10, 20 ans, etc., je replongerai dedans, etc., ou quelqu'un me donnera les mangas dans un camion, il me livrera une énorme caisse avec tous les mangas One Piece, et peut-être que là, à ce moment-là, j'attaquerai et je lirai tout d'un suite. Mais je pense que...
C'est un style graphique aussi assez spécial, hein, qui ne peut pas plaire à tout le monde. Je fais un peu sa référence avec des mangas tels que One Punch Man, où il faut se concentrer plus sur
l'humour, voilà. Les personnages et les situations complètement farfelues. Bah, c'est vrai que c'est un manga One Piece où il y a beaucoup d'humour et des personnages très très charismatiques, très très. Ouais, c'est vraiment une série très humoristique. Il a été adapté en jeu vidéo, bien sûr. Enfin.
Alors, j'en profite
pour faire. Je n'ai pas fini de faire de l'argent avec.
Je fais une petite parenthèse avec un autre manga, mais alors cette fois-ci qui date.
Oh là là.
On va repartir loin en arrière. Je parle d'Évangélion, ce combat avec des robots. C'est un peu le cataclysme final. Puis c'est les robots qui viennent sauver, dirigés par des enfants.
Comment s'appelle ce film américain live avec où ils se battent contre des robots géants?
Transformers?
Non, pas Transformers. Oh, c'est malin, j'ai un doute. J'ai un doute.
Et en gros, même après que cette franchise ait plus ou moins été oubliée, on continue à sortir des goodies.
C'est ça, il y a des fans. C'est une série qui n'a. Il y a eu. Enfin, il y a eu. Oui, il y a eu un manga. Il s'est adapté en série. Il y a eu quoi, 13 épisodes ou 26 épisodes
et enfin, le problème, c'est qu'il y a eu un film. Le gros problème d'Evangelion, c'est qu'ils ont terminé par une... C'est mal terminé.
Il y a eu beaucoup de polémiques. Parce
une catastrophe.
Mais il n'y a pas eu de suite. Enfin, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de nouveau, il n'y a pas eu de Evangelion 2. Il y a eu peut-être une ou deux adaptations en jeu vidéo, c'est tout. Mais il n'y a rien, quoi. Donc ça fait, en gros, on va dire 20 ans peut-être, qu'il n'y a pas eu de news, de nouveauté sur Evangelion. C'est ça, il n'y a pas d'actualité, en fait. Mais dès que tu sors quelque chose, que ce soit un jouet ou un jeu vidéo ou un livre, n'importe quoi, ça marche parce que la base de fans est toujours là, quoi.
Et là, on ne parle pas de statuettes ou de jeux, hein. On parle de rations de survie.
Oui, parce qu'effectivement, ça se passe dans un univers pas post-apocalyptique, mais où la Terre est attaquée par une menace. Et effectivement, où les gens doivent survivre. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, si on devait survivre à une attaque, comme dans la série, comme dans le manga, qu'est-ce qu'on devrait manger? Et donc, ils ont créé des rations de survie basées sur, je sais pas, dans l'esprit d'Evangelion. Enfin, c'est vraiment un coup marketing, c'est tout, quoi. Il y a aucune justification. C'est vraiment très bizarre.
Pourquoi pas, mais est-ce que ça donne envie? Je pense que les gens ont été dégoûtés de la franchise Evangelion une fois qu'ils ont vu la fin et le film. Clairement.
Là, c'est vraiment histoire de sortir des boîtes. En plus, c'est des rations, donc c'est quelque chose qui se consomme. Il y a de la nourriture dedans, de la vraie nourriture. Parce que quand tu achètes un jouet, une figurine ou un jeu vidéo, tu peux jouer avec, mais tu peux le laisser dans sa boîte aussi. Dès que là, tu achètes de la nourriture, mais pas pour la manger. Tu vas la stocker, mais surtout, si tu es fan de la figurine, tu vas jamais y toucher. Tu vas jamais la manger.
Est-ce que tu me permets de sortir du Japon pour te faire balader aux États-Unis, est-ce que tu irais manger dans les Moobies de Kevin Smith? Puisqu'il a recréé le fast-food qui passe dans ses films tels que Clerks.
Ouais, mais c'est différent parce que...
Et tu peux emporter la nourriture.
Ah.
Est-ce que tu irais manger dans un Moobies de Kevin Smith?
Ouais, mais ça, c'est de la nourriture qui... Enfin oui, tu peux la manger sur place, etc. Tu participes à l'expérience. Donc là, on parle vraiment d'un objet qui contient de la nourriture. Mais si t'es fan, tu l'achètes, tu la mangeras jamais. Donc, à la limite, la boîte vide, ce serait pareil. Ou alors tu la manges et tu refermes délicatement la boîte.
Si c'est un burger fait à la façon McDo ou Burger King ou Quick, tu peux le garder pendant 10 ans, il ne bougera pas de place. C'est ça l'avantage.
Parce que là, ils le disent bien, c'est des produits qui vont être... Même si tu les mets en magasin, de la nourriture, quand tu la vois en magasin, c'est une date de conservation. Là, c'est une date de conservation d'entre 3 ans et demi. Mais si tu es fan d'Evangelion, que tu achètes ça, tu vas le garder 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais tu vas jamais le manger. Ça va plus être consommable. Enfin, c'est vraiment discutable de faire des goodies à base de nourriture, quoi. Parce que des fois, oui, t'as des bonbons aux effigies de dessins, de personnages de dessins animés, etc. Ouais, c'est pas grave. Même si tu les manges pas, c'est pas grave. C'est des petites choses, quoi. Enfin, faut peut-être pas les manger dans 20 ans, si t'en retrouves. Mais je pense que ça peut se conserver plus longtemps. Mais là, c'est vraiment, c'est limite. Enfin, quoi qu'on sait, peut-être qu'il y a une catastrophe. S'il y a vraiment une catastrophe qui se passe dans 5-10 ans, est-ce que tu vas manger tes rations Evangelion ?
Bien sûr, bah oui. Bien sûr, j'ai faim. Alors, Dominique, je te propose soit du rap japonais, soit du métal. Alors, je te laisse tourner la... Tu veux faire un pile ou face ?
Allez, va pour le métal. J'ai déjà entendu un bout du rap, je ne suis pas pressé. Du rap japonais, quelle idée.
C'était très bien. Ouais, c'était Sold Out, un groupe qui a travaillé notamment sur Yakitate Japan, un manga sur le pain. Mm-hmm. Alors, attends, il faut que tu me laisses, puisque la technique n'est pas prête. Alors, je te propose d'écouter du baby metal.
Donc, c'est des bébés qui font du métal, c'est ça ?
C'est un peu ça.
Ah, ou alors c'est des hommes... en fait, le groupe est habillé en couche-culotte sur scène. Ça pourrait être pas mal, ça.
Non, c'est un peu comme de la...
Et en plus, ils ont des...
C'est du métal, du J-métal. Ouh. Comme on peut appeler...
C'est pas de la J-pop, c'est du J-métal, ouais.
Voilà, c'est ça. La chanson s'appelle « Karaté ».
Yeah.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 dans l'émission Heureusement en France. Et nous avons reçu des messages. Hein, si vous participez avec nous, Heureusement en France, sur Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez nous envoyer des messages. On a reçu un message de Pierre-Yves nous disant qu'il n'était pas fan. Apparemment, qu'il aurait peut-être éventuellement préféré le rap.
Ouais.
Ouais. À voir. Et on va enchaîner, cette fois-ci on va parler de technologie, hein, puisque c'est vrai qu'au Japon ça carbure notamment. Il est interdit maintenant dans certaines villes pour les piétons d'utiliser leur téléphone lorsqu'ils circulent.
C'est quand même paradoxal. C'est le pays qui est vraiment le plus en pointe, on imagine, au pays de l'utilisation du téléphone mobile, etc. Mais effectivement, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus de piétons qui avaient des accidents. Enfin, des accidents qui mouraient, quoi. Et donc, ils ont décidé de passer, c'est ça, en 2015, si je ne sais pas de bêtises, il y avait 475 piétons qui avaient été tués dans un accident, en traversant la rue, par exemple, etc. Mais parce qu'ils avaient leur téléphone. Alors, j'imagine que dans la portion, il y a une petite portion qui a été causée par Pokémon World, peut-être, on imagine.
Pokémon Go.
Pokémon Go, pardon, oui.
Les jeux de...
Tout ça, quoi. Mais c'est vrai que moi-même, je me surprends par moment. J'ai mon téléphone, que soit je recherche un chemin ou je cherche une boutique ou je ne sais quoi, ou je réponds à un SMS, même en marchant dans la rue simplement, je me surprends moi-même à perdre un petit peu d'attention, quoi. Je fais toujours attention, bien sûr, en traversant la route, etc. Mais une rue, mais on comprend que c'est très facile de laisser perturber. Et donc là, ils vont carrément peut-être même une loi dans certaines villes pour interdire l'usage du téléphone. Donc tu devras porter un masque, laisser ton téléphone dans ta poche. Ça va être que la prochaine étape.
Mais c'est une bonne mesure dans un certain sens. Mais c'est vrai qu'il y a ces jeux qui sont complètement addictifs et qui vous forcent à vous balader. En fait, c'est des jeux assez bien dans le sens où vous allez bouger, vous allez...
Oui, ça te fait sortir de chez toi. Des fois, rencontrer d'autres personnes, ça c'est bien aussi, mais au détriment éventuellement de la sécurité, quoi. Ça te fait même visiter des coins. On se rappelle que dans Pokémon Go, il y a des villes qui l'utilisaient, ce jeu, pour faire visiter des points historiques, etc., à des joueurs. C'était intéressant.
Et puis, du coup, tu avais des sortes de hackers qui généraient des points pour créer...
Des faux points d'accès.
Voilà, c'est ça.
Bon. C'est paradoxal que
au Japon. Tu veux faire chier ton voisin, tu mets un spot de Pokémon en face de chez lui, hein, c'est bien connu. Hein.
Mais c'est amusant que ce soit le Japon qui est le pays geek par excellence qui va bientôt peut-être interdire l'utilisation du téléphone mobile dans la rue.
Et apparemment, il y a de plus en plus d'interdictions qui vont naître comme ça. Et là, cette fois-ci, on va se lier à Twitter, puisque certains artistes japonais publient des photos sur Twitter.
Comme par exemple celui dont on parlait tout à l'heure, le retraité qui fait ses magnifiques dessins sur Microsoft Excel. S'il a envie de les publier sur Twitter, du coup, il va mettre une photo de ses œuvres. Il va mettre son nom en bas. Ce magnifique tableau était créé par... j'ai déjà oublié son nom, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce qui va se passer? Des gens vont partager sa photo, vont la retweeter.
Ce qui est tout à fait légal. C'est même encouragé. Et même encouragé. Sauf que ce qui se passe dans Twitter, lorsque certaines fois vous partagez des photos, il va la crop, ce qui va dire qu'il va la redimensionner.
La tronquer, comme on dit en français.
Et jusqu'à enlever le nom de l'artiste en bas de la photo. Ce qui devient extrêmement gênant lorsque vous retweetez une photo et les crédits n'apparaissent
pas. Il a posté une photo, mais elle est gratuite, elle appartient à personne, donc je peux la réutiliser. Quand tu es artiste, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu mets ton nom en plein milieu. C'est pas terrible.
Donc, au Japon, un artiste s'est aperçu que ses photos ont été retweetées deux fois, sans avoir ses crédits en bas de l'image. Il a porté plainte. Et ce qui a forcé Twitter, ce qui se passe très rarement dans ce genre de cas, Twitter a dû révéler l'adresse exacte et le nom et prénom des personnes qui avaient retweeté. Alors que c'est Twitter qui redimensionne l'image, mais il balance quand même la personne qui a retweeté, qui limite ne voulait pas faire de mal, au contraire.
Il s'emmerde pas.
Voilà, on sait qu'Apple a de grosses réticences, même en cas de terrorisme ou autre, de donner
des informations personnelles sur les... Oui.
Alors, chez Twitter, bon. C'est pas très grave, écoute. Bah, je propose de clôturer cette émission, Dominique. Tout simplement, on a encore plein de news sur le Japon. Je pense pas qu'on les entamera la semaine prochaine.
On aura peut-être même des nouvelles d'ici là.
Voilà. On devait recevoir un invité avec Jérémy qui est fan de J-pop.
Absolument, il nous parle de ça, c'est sa passion. Ben il voilà. Ne vit que pour ça.
Donc, même s'il n'a pas pu venir, on va quand même lui faire un petit honneur en lui passant une musique de qualité avec le groupe Apatai. Et cette musique qui nous a fait vibrer...
C'est pas jeune non plus, ça. Ça date de 2001, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un clip qui était complètement fou, apparu sur Internet, enfin sur YouTube à l'époque, je ne sais quoi.
C'est un clip en 360K, vous ne pouvez pas le trouver à plus que ça. Déjà, ça indique, niveau qualité, où est-ce qu'on met la barre. Hein.
C'est une bande, en plus, c'est ça, les chanteurs, est-ce qu'on peut appeler ça des chanteurs? C'était des purs salarymen, des pauvres japonais moyens, quoi, habillés. Ils n'étaient pas en couche-culotte, comme je dis, ils étaient en slip, eux. Une magnifique chorégraphie et une chanson magnifique qu'on va vous faire écouter. Quoi.
Voilà, en hommage à Jérémy.
Voilà,
on se retrouve.
Vous écoute sûrement en slip d'ailleurs.
Oui, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!
Radio Campus Lille,